Chronique coopérative en quarantaine, numéro 3, de la guerre au Tao.
Coop, la voie coopérative.
Nous avons le plaisir de dialoguer aujourd'hui avec Pierre Mougel, qui est thérapeute en médecine chinoise, auteur d'un livre d'une grande clarté, d'un intérêt considérable. Qu'est-ce qui nous arrive ? Sous-titré « Stress, épuisement, angoisse, burn-out », les réponses et remèdes proposés par la tradition chinoise pour aller de la peur à la confiance. Cet ouvrage est paru en 2018. Pierre Mougel a opéré une conversion professionnelle extraordinaire, bien plus qu'une conversion professionnelle d'ailleurs, en devenant thérapeute après avoir été pilote d'avion de chasse, membre de la patrouille de France et engagé dans des missions pendant la guerre du Golfe. De l'élite des guerriers modernes, pourrait-on dire, à l'étude de Lao Tzu. Non, je n'ai pas éternué, rassurez-vous. Ainsi, lorsque Pierre m'a envoyé ce verset du Tao, « Ce que je combats m'affaiblit, ce avec quoi je coopère me renforce », j'ai souhaité vous faire partager cette invitation au dialogue autour de quelques questions. Bonjour Pierre.
Bonjour Hervé.
Première question, il peut paraître à première vue légitime de parler de guerre contre le coronavirus, nos dirigeants ne s'en privent pas. Est-ce que cela est vraiment finalement juste ?
Alors je pense qu'il faut distinguer deux choses. Effectivement, par rapport au monde médical et aux soignants, eux sont effectivement sur le front, ils sont en état de guerre. Il leur faut, pour être très efficient et sauver le plus de vies possible, il leur faut être opérationnel, il leur faut avoir un fonctionnement assez militaire, malheureusement. Et donc on peut effectivement, dans ce cas, parler de guerre pour eux. En revanche, pour le reste de la population, ça paraît peut-être excessif. On pourrait peut-être davantage demander aux gens d'être coopératifs, de beaucoup plus s'impliquer derrière ses soignants et d'être dans un fonctionnement plus responsable. Et on voit par exemple en Allemagne où je vis et où je travaille, eh bien l'invitation du gouvernement est de cet ordre. Il nous invite à rester chez nous le plus possible, à ne pas nous déplacer inutilement, et si on est en groupe à l'extérieur, c'est seulement par deux. Bref, on nous responsabilise beaucoup plus, les marchés fonctionnent, les gens respectent des distances entre eux, les entreprises artisanales fonctionnent, les constructions continuent à fonctionner, bref.
En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il est possible, peut-être juste, hein, de parler de combat pour les soignants en première ligne, mais peut-être exagéré d'englober dans cette expression militaire, en fait, oui, les populations qui doivent rester chez elles et qui seraient plutôt à se soutenir et à coopérer, oui, qu'à être sous un ordre martial, en fait, hein, qui a moins de sens. Exactement. Dans le cadre d'un virus. Alors, sur justement ce virus et l'impact incroyable qu'il a sur la santé, ne sommes-nous pas vulnérables finalement parce que nous étions, ou en tout cas une bonne partie de la population, déjà épuisée avant le Covid-19 ?
Oui, absolument. Et on peut le constater, c'est un peu l'objet de mon livre, que nous sommes dans une société quand même à bout de souffle avec de l'épuisement, énormément d'épuisement. Et on dit bien « je suis épuisé, je suis fatigué ». Pour les Chinois, on manque d'eau dans nos sociétés. Et on a un côté épuisé et qui a une conséquence, c'est que pour nous en médecine chinoise, avoir les reins solides, cette réserve d'énergie que sont nos reins pour les Chinois, elle sous-tend le système immunitaire. Donc effectivement, une société épuisée est plus vulnérable aux agressions extérieures comme celle des virus.
Est-ce qu'il n'y a pas du coup, à travers cette épreuve, une accélération possible d'une forme de changement, de métamorphose, où on pourrait peut-être espérer passer d'une compétition effrénée à une capacité de coopération plus développée, ce qui était peut-être le sens du message, hein, de ce verset du Tao que j'ai cité tout à l'heure, et du coup d'avoir une plus grande attention aux soins et à nos rythmes que ce que nous avons pu vivre préalablement.
Tout à fait. Ce que je pourrais dire, c'est que pour nous, en médecine chinoise, la conséquence de l'épuisement fait qu'on pourrait représenter l'être humain comme fonctionnant sur deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. L'axe vertical est l'axe qui relie le cœur aux reins. Les reins, on l'a vu, c'est donc la réserve d'énergie. Le cœur, c'est l'énergie de l'amour, l'amour universel. On a perdu cet axe vertical pour les Chinois de plus en plus au fil du temps à cause de l'épuisement. Et puis, parce que si on est trop fatigué, on est dans des peurs. Et en étant dans des peurs, on n'est plus capable de s'ouvrir à cet amour universel, à la compassion, à la générosité. Et donc, on vient se réfugier petit à petit depuis des décennies, les dernières décennies surtout. Eh bien, on est venu se réfugier sur cet axe horizontal qui est l'axe du fonctionnement animal dominant-dominé, où là, finalement, c'est la loi du plus fort, et on est dans une vision très matérialiste de la vie, où on est de moins en moins dans la coopération, dans l'humain, et on est plutôt dans ce mode de compétition, et où là, vraiment, on peut se faire très très mal. On va retrouver sur cet axe, effectivement, le fonctionnement animal, où là, il y a beaucoup d'insatisfaction, de violence, de colère. Et donc, cet axe sur lequel nous étions avant le Covid-19, que l'on peut espérer quitter à travers cette étape importante que nous traversons, ou cette épreuve terrible que nous traversons, c'est une opportunité, en tout cas une invitation, à retrouver, à reconstruire notre verticalité, cet axe vertical. Eh bien, peut-être à travers ce confinement, le bon côté, c'est qu'on est obligé de se reposer, donc avoir rechargé vos batteries, et puis peut-être arriver à retravailler cette verticalité qui est l'axe de l'humanité, l'axe de la vie, l'axe du fonctionnement humain, avec beaucoup plus de compassion.
Pour prolonger notre dialogue, en quoi cette métamorphose qui est sans doute nécessaire de la société entière, finalement, à travers peut-être ce moment clé de crise, peut ressembler à votre propre évolution, à ce passage qui ne cesse de m'impressionner, de cette force et de cette capacité de frapper liée au métier hein, de pilote de chasse, et finalement au passage à la puissance de servir et de soigner, qui est particulièrement important, essentiel, comme on le voit, dans ces moments difficiles.
Alors c'est bien sûr très très personnel mon parcours et celui voilà on a tous un chemin de vie et on a tous eu des circonstances de vie qui nous ont amenés à des prises de conscience et à une évolution. Dans mon cas j'ai vécu mon engagement dans l'armée comme un service de la nation, être au service de la défense du pays et de quelque part, à travers cette expérience, notamment de la guerre du Golfe, où c'est vraiment, on est hors du temps, on est dans un moment très intense, parce que, effectivement, le danger et la réalité de perdre la vie devient encore plus forte que dans ce métier qui, de toute façon, est un métier à risque. Dans ces moments-là, on est face à nous-mêmes et arrivent des questions existentielles qui permettent, quelque part, qui sont là. La semence d'une évolution, puisqu'au moment où je devais quitter l'armée de l'air pour me reconvertir, eh bien, j'ai aspiré à aller quelque part, continuer à servir, mais peut-être servir avec peut-être une autre dimension, un idéal. Puis après, peut-être que j'avais en moi cette capacité à me tourner vers l'autre et à accompagner l'autre.
Dans la préparation de ce dialogue, J'avais noté que finalement, il y avait des constantes dans cette évolution, notamment cette aspiration à servir, même si la forme que ça prend évolue de façon radicale. Il y a aussi, je crois, des moments de basculement. Peut-être qu'à la fois l'épuisement et des événements extérieurs, des inquiétudes particulières, nous amènent aussi à cette inversion, peut-être, des choses, ou en tout cas, le fait de retrouver les mêmes composantes, de rester finalement dans son identité, mais en changeant complètement à la fois le référentiel et puis son mode d'action. Est-ce que c'est un parallèle trop audacieux entre ce que nous vivons collectivement aujourd'hui et d'une certaine manière à l'échelle planétaire et ce qui a été ce parcours de conversion pour vous?
Vous avez raison, hein, les Asiatiques disent que la vie est une école. En Occident, on aurait plutôt tendance à dire que la vie est un combat. Si on considère que la vie est une école, il est vrai que l'élève dans l'école ne va progresser qu'à travers des épreuves, des examens, des contrôles. Et dans mon cas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fatigue, parce que ce métier que j'ai fait pendant 21 ans est quand même très épuisant, physiquement et nerveusement. J'ai perdu beaucoup de camarades en vol. Voilà, on est amené à se poser beaucoup de questions. Donc cet épuisement, puis des événements personnels, la maladie d'un enfant qui nous ont amené, mon épouse et moi, à nous poser beaucoup de questions, puisque je passais d'un univers quelque part dans ce métier très exigeant. Il y a une grande nécessité de contrôle, de vraiment tout savoir programmer, anticiper et quelque part avoir le contrôle absolu sur ce qui va se passer, même en envisageant les modes dégradés, bien sûr. Mais, et tout à coup, vous vous retrouvez face à la vie qui vous pose une problématique qui, elle, il n'y a pas de solution logique, il n'y a pas de baguette magique et de contrôle.
De procédure et de processus déjà planifié. Absolument. ou prévisible.
Et là, c'est là où ce genre d'épreuve amène à être, à redevenir humble, quoi, peut-être à se positionner autrement face à la vie et à regarder les choses sous un autre angle, à arriver dans ce que j'appelle le lâcher prise, quelque part une forme d'acceptation qui rejoint beaucoup la philosophie du mode confiance dont je parle dans mon livre, où finalement, eh bien, on accepte que les choses peut-être ont un sens qui n'est pas immédiatement évident, mais qui se révèle avoir du sens avec les années, avec le recul.
Ce que je combats m'affaiblit, ce avec quoi je coopère me renforce. La suite du 68e verset est la suivante. Un bon soldat n'est pas violent. Un bon combattant n'a pas de colère. Les bons vainqueurs ne combattent pas. Les bons patrons servent leurs employés, le meilleur dirigeant suit la volonté du peuple. Chacun d'eux incarne la vertu de non-compétition. C'est ce que l'on nomme la vertu du non-lutter. On appelle cela utiliser la puissance des autres. Il peut paraître impossible d'éliminer définitivement le coronavirus. Il s'agit peut-être davantage de le remettre à sa place, ce qui suppose de lui en reconnaître une. Il semble bien que ce soit le déséquilibre d'un écosystème qui ait amené ce contact avec le coronavirus. Est-il donc nécessaire, non pas de rêver d'éliminer complètement les virus, mais de savoir quelle place nous pouvons prendre et quelle place nous devons laisser, y compris à des organismes qui sont là depuis des millions d'années?
Pour reconnaître une place, oui, je pense que, comme le dit le verset, ce que je combats m'affaiblit, ce avec quoi je coopère me renforce. Ça peut être pertinent pour une maladie. Je dis souvent à mes patients, peut-être c'est intéressant de ne pas absolument vouloir se battre contre votre maladie, mais plutôt essayer de comprendre ce qu'elle est venue vous dire. Et dans ce cas présent, vis-à-vis de ce virus, ça peut être aussi pertinent de nous interroger, oser s'interroger et essayer de coopérer avec ce qui est en train de se passer autour de nous, plutôt que de vouloir s'épuiser, même si le combat est important.
Pour finir, Pierre, quels seraient les conseils pratiques à donner à nos auditrices et auditeurs?
Alors, dans un premier temps, comme conseil, j'aurais envie de rassurer les gens, parce que pour moi, contact avec le virus n'est pas forcément automatique et mathématiquement une contagion. Peut-on vraiment faire abstraction de la force vitale de l'individu qui rentre en contact avec le virus? Est-ce que sa façon de percevoir la situation d'être dans l'appréhension extrême et la peur ne vont pas affaiblir son système énergétique, son énergie vitale. Est-ce que ses croyances et même sa philosophie de vie, si elle est porteuse de confiance, ne va pas avoir aussi une influence sur la qualité de son système immunitaire et de ses défenses? Voilà, ces questions, globalement, son hygiène de vie, évidemment, sont aussi très importantes. Alors, j'aurais envie de donner 3 conseils pour essayer d'aller bien dans notre globalité et être plus résistant face aux agressions virales, notamment dans ce cas. Dans un premier temps, j'ai envie de dire aux gens, renforçons nos reins, la réserve d'énergie du corps pour la médecine chinoise, en commençant par essayer de nous coucher tôt, parce que c'est très important d'essayer de nous coucher avant 22h30, de dormir avant 22h30 pour nous en médecine chinoise, pour avoir les reins solides. Les reins solides qui sont une forme de garantie pour notre système immunitaire, mais aussi pour nous préserver des peurs. Si on est bien posé, si on a les reins solides, on est moins sensible aux peurs. Et on peut plus s'ouvrir à la confiance, une confiance en la vie. Deuxième point, je dirais, nourrissons l'énergie du cœur. Le cœur, c'est le véritable empereur pour la médecine chinoise. C'est le centre de l'être. Essayons de développer notre attention à l'autre, la coopération, la générosité, l'amour pour le vivant sous toutes ses formes et bien évidemment peut-être la joie de vivre également. Et enfin, troisième point, travaillons notre dimension spirituelle. C'est un chemin qui passe par le silence et l'immobilité qu'on va retrouver dans la méditation, mais pas seulement. Ce silence, cette immobilité, ce chemin spirituel est pour moi la voie pour nous aider à aller vers ce nouveau monde qui nous attend, mais qui ne va pas s'imposer à nous. Il va falloir qu'on aille vers lui. C'est à nous de faire le chemin. Voilà, c'est ce que je pense qui est très important, en tout cas dans ces moments bien difficiles. Avec une pensée, bien sûr, pour tous ceux qui combattent, qui sont dans la souffrance également.
Merci beaucoup, Pierre, et puis à bientôt, sans doute, pour d'autres chroniques.